Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Défendre le peuple palestinien est une garantie de stabilité et de sécurité régionale, selon le président élu iranien. L'Iran et la Syrie se prononcent en faveur du renforcement de la coopération bilatérale. Les guerres israéliennes sont toutes américaines. La résistance y tiendra tête, a souligné le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah. L'ambassade américaine à Bagdad a été visée par drones et tirs de roquettes. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Lors d'un entretien téléphonique avec le premier ministre pakistanais Imran Khan, le président élu iranien Ebrahim Raisi s'est dit inquiet de la situation en Afghanistan, ajoutant que sa sécurité est importante pour l'Iran et que cette sécurité doit être établie par le peuple afghan. Raisi a estimé que la Palestine est le symbole de la solidarité du monde islamique, soulignant qu'une défense efficace et continue du peuple palestinien opprimé est une garantie de la stabilité de la sécurité régionale. M. Raisi a affirmé que le lien des deux peuples et les diverses capacités des deux pays sont une bonne base pour promouvoir la coopération dans différents domaines. En diplomatie économique, le nouveau gouvernement considère tout le potentiel économique de ses voisins comme de précieuses opportunités de coopération et donc aucun potentiel économique ne sera négligé, a souligné le président élu iranien. Le président syrien Bachar al-Assad, lors d'une conversation téléphonique avec le président élu iranien Ebrahim Raisi lundi soir, a souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale Téhéran-Damas. Lors de cette conversation téléphonique, Bachar al-Assad, tout en félicitant le président élu iranien pour sa victoire à l'élection présidentielle iranienne, lui a souhaité plein succès dans la conduite de l'exécutif de la République islamique, de nouveaux progrès et la poursuite des acquis dans tous les domaines. Les deux parties ont également souligné, selon l'agence d'information syrienne Sana, leur ferme volonté à poursuivre le processus de renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines et à continuer les consultations et la coordination sur les questions d'intérêt commun. Les guerres israéliennes sont toutes américaines. La résistance y tiendra tête, a souligné le secrétaire général du Hezbollah de libanais. Il a appelé lors d'une intervention devant la conférence de la Palestine vaincra à une extension du front médiatique contre les États-Unis, un front qui est aussi important que le front de guerre. Je le dis très simplement, cette fermeté qui perdure n'a pas été gratuite. C'est le fruit des vies sacrifiées, des sangs versés. Daesh, ce complot noir a été ourdi pour faire oublier la Palestine, un complot qui a échoué. En effet, le besoin d'une extension du front médiatique pro-résistance s'explique par cette fermeté et cette intransigeance qui est celle de la résistance et qui s'est illustrée par la grande victoire de la Palestine à l'issue de l'opération Épée de Quds, a souligné Seyyed Hassan Nasrallah. Eh bien, chaque guerre que mène Israël, c'est une guerre américaine et c'est le droit des Palestiniens d'y faire face, car cette contrée qui s'étend de la mer au fleuve, il revient de droit aux Palestiniens. Idem pour le Liban qui a le droit de reconquérir sa terre occupée, a souligné Seyyed Hassan Nasrallah. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Une base militaire située dans la zone verte abritant l'ambassade des États-Unis à Bagdad a été visée. Les systèmes de défense aérienne sont entrés en action sans pouvoir pour autant contrer de la frappe. Tôt dans la matinée du mardi, les sources irakiennes ont annoncé un raid aérien contre la zone verte à Bagdad près des immeubles et bâtiments des Américains. Les sirènes d'alerte ont retenti dans la troisième base Al-Tawid dans les locaux de l'ambassade américaine dans la zone verte, a annoncé Sabah News dans une dépêche postée sur son canal Telegram. La source précise que le système CRAM était entré en action pour contrer l'attaque qui était de forte intensité. Quatre explosions successives ont fait jeter les munitions de 20 mm depuis l'ambassade US vers le ciel d'Al-Karadar, de Qadesiyar et d'Al-Jadariya, a écrit Sabah News. Sabah News confirme qu'il s'agit d'une attaque menée par quatre drones qui visaient avec précision la base Al-Tawid, après quoi les troupes américaines ont fermé le secteur militaire de l'ambassade américaine. L'espace de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, connaîtra une faible reprise économique avec un taux de croissance du produit intérieur brut estimé à 1,3% en 2021, a annoncé la Banque des États d'Afrique centrale. Le taux de croissance du PIB est annoncé à 1,3% après la récession, moins à 1,7% en 2020. Cette estimation est en baisse de 0,5% par rapport à 1,9% envisagé par la Banque des États de l'Afrique centrale en avril dernier. À en croire la Banque centrale, ses prévisions sont consécutives aux incertitudes liées à la persistance de la crise sanitaire, de nouveaux coronavirus et au regard enregistré dans le déploiement des campagnes de vaccination. L'armée burkinabé a annoncé avoir neutralisé ce terroriste présumé qui avait tué le 21 juin 11 policiers et 2 militaires dans le centre nord du pays. Elle a précisé dans un communiqué que les forces spéciales et l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale avaient conduit une opération baptisée Bélier du 28 juin au 1er juillet à Madou, une localité de la province du Sandmantengar. La cible identifiée par les services de renseignement était le groupe terroriste qui avait attaqué des policiers le 21 juin a poursuivi l'armée. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Les guerres israéliennes sont toutes américaines, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Sayed Hassan Nasrallah, a appelé ce lundi, lors d'une intervention devant la conférence « La Palestine vaincra » à une extension du front médiatique contre les USA, un front qui est aussi important que le front de guerre. Je le dis très simplement, cette fermeté qui perdure n'a pas été gratuite, c'est le fruit des vies sacrifiées, des sangs versés. Daesh, ce complot noir, avait été ourdi pour faire oublier la Palestine, un complot qui a échoué. En effet, le besoin d'une extension du front médiatique pro-résistance s'explique par cette fermeté, cette intransigeance qui est celle de la résistance et qui s'est illustrée par la grande victoire de la Palestine à l'issue de l'opération épée de Qods. Eh bien, chaque guerre que mène Israël, c'est une guerre américaine et c'est le droit des Palestiniens d'y faire face, car cette contrée qui s'étend de la mer au fleuve, il revient de droit aux Palestiniens. Idem pour le Liban qui a le droit de reconquérir sa terre occupée par Israël. C'est le droit de nos nations de faire face au pillage systématique des États-Unis et d'exploiter leurs richesses. C'est leur droit de décider de leur sort loin des dictats et des manipulations, yes, a souligné le secrétaire général du Hezbollah libanais. Et d'ajouter, eh bien, le discours de la résistance est basé non pas sur la propagande, mais sur la réalité du terrain. La résistance est consciente des points forts de l'ennemi. Elle les connaît, mais elle les reconnaît pour mieux les combattre. En Israël, par exemple, il n'existe pas de nation. Ce sont tous des colons, des occupants venus de quatre coins du monde. Notre fiabilité médiatique est à tel point que l'ennemi a davantage de confiance dans nos médias que dans les siens. Et car quand la résistance promet quelque chose, elle tient sa promesse. Elle a promis de faire libérer ses prisonniers. Elle l'a fait. Maintenant, quand je dis que la Palestine va être libérée et qu'Israël va disparaître, ce n'est pas du rêve, mais des espoirs bien réels. Plus loin, Nasrallah est revenu à la présence US dans la région. La domination des États-Unis est l'un des plus grands dangers qui menacent les peuples de notre région. Cette domination a pu, par endroits, manipuler les États et les armées entières. Elle place les richesses de notre région dans le sens des intérêts d'Israël. Le régime sioniste leur doit de son existence, sa morgue aux Américains et à leur soutien. Et de poursuivre, nous sommes confrontés à la domination et à l'occupation US en Irak, où les Américains agressent l'Hashd al-Shaabi ou dans l'est de la Syrie. Mais notre combat s'élargit et s'étend au domaine médiatique et inclut une royale guerre psychologique. Or, notre guerre psychologique n'est pas basée sur de l'illusion et du mensonge. Le point fort des médias de la résistance, c'est leur intégrité dans la transmission des informations et des facts et des événements. La résistance n'agrandit pas ses objectifs et c'est là l'un des paramètres de la force de la résistance. À Qods, la résistance a promis protection et soutien et elle l'a fait. Nos médias devront régénérer de la pensée des courants, car le camp d'en face cherche à effacer la Palestine et à occuper le peuple de la région à leur quotidien. Quand Israël aura compris que toute atteinte à Rots se débouchera sur une guerre régionale, il changera de son fusil d'épaule, a souligné Seyyed Hassan Nasrallah.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 2 juillet 2021. L'exercice naval iranien baptisé Amniyat Paydar, sécurité durable, s'est déroulé mercredi dans la mer Caspienne. Des unités de surface et aériennes, de l'armée de terre, des lanceurs de missiles, des hélicoptères et des systèmes de guerre électronique ont pris part à cette manœuvre maritime, mais aussi aérienne. L'exercice s'est déroulé dans une étendue de la mer Caspienne d'environ 77 000 km, soit les 20% qui appartiennent à la République islamique d'Iran. L'objectif de cet exercice serait de protéger les eaux territoriales iraniennes, mais aussi de maintenir les lignes de transport. Des drones de la marine iranienne ont également mené des opérations de surveillance couvrant toute l'étendue de la mer Caspienne, c'est-à-dire de l'étendue maritime, en effet utilisée pour ces manœuvres par la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces manœuvres importantes dans la mer Caspienne, leur message et au moment justement où l'OTAN cherche à maintenir une présence en menant des activités provocatrices dans la région. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Lors d'un exercice naval qui s'est tenu ce mercredi 30 juin en mer Caspienne, les drones iraniens Yassir et Ababil ont accompli une mission de reconnaissance en transmettant des données de navires à un centre de contrôle et de commandement. Les drones de moyenne portée de Yassir et d'Ababil, tous les deux fabriqués à l'intérieur de l'Iran, ont capturé des images de l'exercice « Sécurité durable 1400 » avant de les transmettre en ligne à un centre de contrôle et de commandant. Les deux drones ont bien accompli une mission de reconnaissance de navires. Le drone Yassir a été fabriqué il y a une dizaine d'années en Iran sur la rétro-ingénierie du drone « Scone Eagle » construit par les sociétés américaines Boeing et Institut, qui avait été fait descendre un an plus tôt par la DCA, du corps des gardiens de la révolution islamique. Yassir est long d'un mètre et pèse une vingtaine de kilogrammes. L'appareil est en mesure de rester dans le ciel entre 7 et 10 heures et d'atteindre une altitude de 15 000 pieds et une portée de 200 kilomètres. Le drone Yassir est guidé par les stations de contrôle mobiles qui sont basées sur le sol. Le drone commence son vol à l'aide d'une rampe de lancement et accomplit sa mission de reconnaissance grâce à ses caméras de pointe. Le poids léger, la grande vitesse et la considérable marge de manœuvre du drone Yassir lui permettent tous de réussir ses missiles de reconnaissance. Étant furtive, le drone Yassir est doté d'un mémoire intérieur et d'un système d'autopilotage. À noter que le drone Yassir fait également partie des opérations de la résistance en Irak, au Liban et en Syrie. Au cours de l'exercice naval Sécurité durable 1400, les fusiliers marins et les commandos de la marine de l'armée iranienne ont participé à des opérations de combat épaulées par les hélicoptères 212 et les navires lance-missiles. En plus, l'unité spéciale de la marine de l'armée iranienne a mené des opérations de guérilla et de contre-guérilla ainsi que des opérations d'infiltration sur la côte. Lors d'une autre phase de la manœuvre, les forces de la marine se sont exercées à tirer vers les cibles de surface et aériennes.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci infiniment de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Moscou, Fabrice Huard, expert pour l'ONG Aude. Monsieur Huard, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur votre antenne et de débattre avec M. Dortiguier.
Monsieur Huard, peut-être pour la première fois, une manœuvre d'une telle importance, d'une telle envergure dans la mer Caspienne et d'importantes, en effet, unités de surface aérienne, mais aussi des systèmes, des lanceurs de missiles, des drones et des systèmes de guerre électronique ont pris part à cette manœuvre qui s'est déroulée mercredi. Une première question, quel est le message et l'importance de cette manœuvre iranienne, des forces armées iraniennes dans la mer Caspienne ?
N'étant pas dans les petits papiers tout de même de l'armée iranienne, je ne puis donner le détail. Ceci étant dit, on peut en extraire, à mon humble avis, deux possibles leçons. La première, c'est une leçon à destination de ce qui se passe, on va dire, dans le golfe Persique. Des manœuvres, justement, en Caspienne permettent aussi d'éviter les provocations, toute la propagande qu'il peut avoir tout autour, généralement des manœuvres militaires des pays considérés comme ennemis par les États-Unis. C'est un premier élément, tout en faisant acte de démonstration des nouvelles capacités militaires et, comme cela a été indiqué, spécifiquement tout de même les drones dont l'Iran aujourd'hui quand même grade assez rapidement le niveau de compétences et à ce moment-là donc des différentes armes qui aujourd'hui effectivement sont incontournables. Et d'un autre côté, la région où ça s'est passé, ce n'est pas anodin, puisque quand bien même qu'on peut avoir des relations internationales, allons-nous dire, convenables et apaisées, mais normales, il n'empêche qu'il faut quand même prendre en compte de ce qui s'est passé dans le Caucase du Sud, à savoir le conflit dans le Haut-Karabakh, où nous avons vu à ce moment-là l'armée turque intervenir aux côtés de l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, on voit bien qu'ayant mis un pied dans la porte du Caucase, Ankara aujourd'hui veut installer des bases, semble-t-il, en Azerbaïdjan. Et qu'est-ce que la Turquie, à part la deuxième armée de l'OTAN ? Et on sait très bien ce qui se passe dans les politiques américaines, qui est toujours une politique de containment et d'encerclement. Et ils ont bien évidemment l'envie d'arriver sur la Caspienne, parce que la Caspienne, ça ouvre tout l'Asie centrale. Et étant donné qu'aujourd'hui, ils sont en train de s'extraire de l'Afghanistan, cela pourrait être un élément de repli de certaines de leurs forces. Et on comprend bien, évidemment, que c'est un danger pour la République islamique d'Iran. Ce pourquoi on peut envisager, sans faire trop de plans sur le futur, que ces manœuvres étaient à destination, effectivement, des forces de l'OTAN qui ont comme idée de vouloir s'installer dans la Caspienne. Et qu'on sait très bien, lorsque l'OTAN vient quelque part, cela n'amène que des tensions. On le voit bien en mer Noire avec toutes les différentes provocations des navires, qu'ils soient anglais ou néerlandais, donc des navires de l'OTAN. En cela, ces manœuvres est un avertissement démontrant que les forces iraniennes sont prêtes et qu'il ne faut pas penser que cela pourrait être une base d'agression future contre l'Iran.
Merci infiniment, Monsieur Huard, pour ces éclairages. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse, Monsieur le professeur Pierre Dortiguier. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Codabandé. Bonjour à tous, auditeurs, et bien sûr à Monsieur Huard, que je remercie de sa présence.
Monsieur le professeur, Monsieur Huard a rappelé qu'il s'agit là, bien sûr, d'une démonstration en premier lieu des capacités. Des nouvelles capacités militaires dans la République islamique d'Iran, mais bien entendu, il faut replacer ces manœuvres dans le contexte des événements régionaux avec tous ces événements qui viennent de se passer. Alors, si on remonte en arrière, le conflit dans le Caucase du Sud, le conflit du Haut-Karabakh, ou tout récemment, ces provocations, notamment anti-russes de l'OTAN, avec cette intrusion du destroyer britannique. Ceci étant dit, alors, quel constat tirez-vous, monsieur le professeur, de ces manœuvres de l'armée iranienne dans la Caspienne?
Eh bien, elles sont, vous avez bien fait, monsieur, de rapporter cet incident dans la mer Noire, qui a fait justement utiliser à monsieur Poutine du terme plusieurs fois de provocation. En effet, c'est une sorte de tentative, bien sûr, de pénétration, monsieur Borla l'a dit aussi, tentative de pénétration que l'on peut estimer également être le cas, un des objectifs, disons, des forces de l'OTAN dans la mer Caspienne, par l'intermédiaire, disons, par la captivité dans laquelle la Turquie est tenue, justement, par le maintien, disons, de son armée à l'intérieur de l'OTAN, qui était justifiée autrefois, bien sûr, par les menaces de l'Union soviétique, bien sûr. Et aujourd'hui, les choses peuvent changer. Ce que l'on peut retirer, votre commentaire, le commentaire de votre présentatrice est excellent ce sujet, c'est d'abord pour les observateurs que nous sommes, pour les étrangers que nous sommes de l'extérieur, c'est que l'Iran a obtenu, a maintenu un niveau technologique malgré les obstacles des blocus, etc., et qu'il a réussi à imiter, disons, et à perfectionner justement ce système de Boeing. Et disons, ceci est une première leçon, mais une leçon, à mon avis, la plus essentielle. C'est-à-dire que le niveau technologique, c'est précisément ce qui fait reculer l'adversité. Et témoigne même d'une stabilité sociale que l'on veut justement ici caricaturer. L'usage donc de ces drones, tout cela, est quand même très important, et très important justement. Et il est vrai que on ne peut que supposer qu'il y a une stratégie à moyen terme, je ne dis pas à long terme, mais à moyen terme de l'OTAN. L'autre jour, j'ai eu l'honneur d'être interrogé par une de vos journalistes sur la réunion qui a eu lieu à... ce qu'il y a eu à l'île de la Réunion, justement, entre un contre-amiral, je crois, iranien, et notre compatriote français, donc l'amiral Bagné, je crois, et qui s'est passé dans une réunion qui a été dans un cadre amical tout à fait remarquable. Et donc, je pense qu'il y a, que l'Iran sent qu'il y a deux types de forces. Un type de force qui est favorable à un accommodement, c'est-à-dire à sa reconnaissance comme puissance légitime, et en même temps d'autres forces qui, elles, pénètrent l'Occident, ne s'identifient pas à l'Occident, mais pénètrent l'Occident, les États-Unis, et veulent maintenir, sous l'influence sioniste évidemment, veulent maintenir une agressivité permanente contre l'Iran. Et je crois que là, à ces attitudes, à ces manœuvres, disons, d'intimidation, ne peut répondre que la démonstration d'une puissance technique. Seule la puissance, disons, peut diminuer la volonté agressive. C'est pour cela que nous voyons ces manœuvres comme un facteur de paix, un facteur de stabilité, disons. Je crois aussi que c'est une attitude qui est... apprécié bien sûr par la Russie, apprécié également, il faut le dire aussi, par la Turquie, parce que la Turquie elle-même est prise dans un étau. Elle a un pied dans l'OTAN, en même temps qu'elle a, disons, un autre pied dans la région, comme vous dites, comme on le sait, et que, disons, il y a une contradiction, qu'il va falloir lever un jour, et que la Turquie prenne, disons, une attitude, à notre sens, disons, plus claire, plus nette, disons. Mais je pense que tous ceux qui veulent, dans les pays en Azerbaïdjan ou en Turquie, disons, avoir une attitude, disons, une position équilibrée, peuvent trouver justement dans ces manœuvres de la mer Caspienne, justement, des arguments pour dire que nous devons avant tout songer à une union régionale, voyez, et avant d'être l'objet ou le jouet, disons, d'intrigues étrangères. Je crois que c'est cela la signification profonde, non seulement matérielle, mais politique, de ces manœuvres. Et pour nous, disons, nous le voyons en Occident comme un facteur de pacification régionale.
Merci infiniment, monsieur le professeur Dortillier, pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Beurre, donc la République islamique d'Iran aujourd'hui, bien sûr, vous avez rappelé au passage, monsieur Dortillier aussi, se distingue par cette acquisition de nouvelles armes, de nouvelles technologies qui sont incontournables. Donc la République islamique d'Iran aussi a une puissance régionale incontournable, d'où justement cette rencontre et cette appréciation par le haut responsable militaire français, l'accueil chaleureux réservé justement au commandant chef de la marine iranienne sur l'île de la Réunion. Ceci étant dit, alors justement, à quoi il faudrait s'attendre dans le contexte des évolutions régionales, que ce soit dans le golfe Persique ou encore dans la mer Caspienne, en ce qui concerne les manœuvres d'intimidation, comme disait M. Dortguier, et les provocations des puissances extra-régionales, que ce soit les États-Unis ou encore d'autres pays membres, notamment de l'OTAN.
Répondons à votre double question. Le premier élément, et je mettrai un bémol à ce qui a été affirmé par M. Dortguier, à savoir sur la Turquie. La Turquie n'est pas entre un étau. La Turquie fait partie de l'OTAN. La Turquie fait partie de ce monde occidental qui n'est pas pour moi l'Europe. L'Occident, c'est le cache-sexe idéologique de la domination impérialiste américaine. Et la Turquie a comme idéologie aujourd'hui une idéologie pantouraniste qui est donc rentre en confrontation avec l'idéologie eurasiste aujourd'hui qui a lieu entre autres à Moscou. Ils sont en confrontation géopolitique. Il ne peut pas y avoir d'entente tant qu'en Turquie il y a cette volonté impérialiste de confrontation, cette illusion de revenir à une sorte d'empire ottoman différent en fédérant les peuples dits turcophones. Donc il y aura toujours cette confrontation et la Turquie est le cheval de Troie dans la région. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas effectivement discuter et trouver des terrains d'entente afin d'amoindrir la confrontation. C'est ce qui se passe en Syrie, c'est ce qui se passe dans d'autres endroits, mais il n'empêche que ce qui s'est passé dans le Caucase est un élément qui marque bien que la Turquie se sert de l'OTAN, donc de l'Occident, pour faire valoir ses intérêts expansionnistes, tout du moins dans sa sphère d'influence, et en cela, ça ne contradit pas, bien évidemment, les objectifs américains d'encerclement et de la Russie et de l'Iran. Maintenant, sur la deuxième partie de votre question, en ce qui concerne, qu'indiqué M. Dortillier, l'entente, il faut rappeler que la France a aujourd'hui compris, une partie de l'intelligence militaire a compris qu'il fallait sortir du cadre de l'Afrique et de la France-Afrique. Il y a encore des résistances, mais il n'empêche qu'avec l'action combinée d'ailleurs de la Russie et de l'Iran en ce moment, et de la Chine en Afrique, on voit très bien quel est le chemin qui se suit pour l'influence française, militaire à tout le moins, et la France a comme projet de redevenir une puissance maritime. En cela, elle a besoin, un, de discuter avec les nouvelles puissances maritimes. L'Iran s'affirme, encore des progrès à faire, bien évidemment, mais s'affirme sur toutes les mers du monde. Et des discussions en cela, on ne peut que se féliciter. Mieux vaut discuter que s'affronter, même s'il peut y avoir des hypocrisies. Mais ça, c'est le monde de la diplomatie. Mais pour autant, c'est vrai que c'est une première. Mais c'est tout à fait normal, puisque aujourd'hui, l'Iran affirme également sa présence dans l'océan Indien. Cela en relation, d'ailleurs, avec la Chine. Et aussi avec la marine russe. Donc on voit bien qu'il y a une volonté d'apaisement d'une partie peut-être de la marine française, mais dans le cadre de son projet de retour également. Donc il faut savoir que ce n'est pas évidemment amical, que c'est un premier élément pour voir quel dialogue est-il possible en ce qui concerne les futures, on va dire, relations presque frontalières d'un point de vue maritime. Donc c'est en cela qu'il faut prendre, mais il ne faut pas négliger, il ne faut pas mettre en dehors de cela, jeter cela comme par perte et profit. C'est un élément important qu'il faut prendre en compte, mais je rappelle quand même et toujours qu'aujourd'hui, la France est quand même également dans l'OTAN, totalement intégrée au commandement général de l'OTAN, c'est-à-dire sous commandement de l'OTAN, et sous commandement de l'OTAN, c'est le commandement américain. Il ne faut jamais perdre cela de vue. La souveraineté géopolitique des États au sein de l'OTAN n'existe pas ou n'existe plus. Et qui paye comment, vu qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Il faut bien comprendre que nous sommes face toujours à cet impérialisme américain et que ça peut prendre différentes formes aux différents drapeaux, mais nous y sommes toujours. Maintenant, favorisons à l'intérieur des armées de l'OTAN la vision que l'intérêt, par exemple, dans le cas précis de la France, n'est pas dans la confrontation avec la Russie, avec l'Iran ou avec la Chine, mais bien et bien dans le dialogue avec ce nouveau bloc eurasiatique qui est en construction pour retrouver des nouveaux équilibres au niveau mondial, et cela afin de garantir la paix mondiale et non le chaos qu'instaure la présence et les actions d'ingérence ou d'agression militaire du bloc occidental depuis la fin de la chute, depuis le début de la chute de l'URSS. Il faut bien le dire, les choses telles qu'elles sont. Donc nous sommes dans cette situation où aujourd'hui la démonstration iranienne dans la Caspienne était une démonstration de force, mais comme toute démonstration de force, ce n'est pas pour dire que nous sommes agressifs, mais pour dire que agresser l'Iran aura également un coût, puisque ce n'est pas une armée d'un pays du tiers-monde et qu'elle a aujourd'hui de quoi répliquer et elle a démontré sur différents terrains. Donc c'est une démonstration de force pour amener à la paix certains pays ou certaines organisations régionales, ou afin d'éviter qu'elles aillent trop loin. C'est aussi un message envoyé aux voisins de l'Iran pour dire que l'Iran est ouvert au dialogue, mais qu'il ne faut pas la prendre évidemment pour une idiote, et qu'elle a de quoi répondre aux provocations de l'OTAN. Je pense au coup de sang que peut avoir Erdogan et ce pantouranisme qui est un expansionnisme, et je pense également à cette politique américaine classique de l'OTAN qui est le containment pour valider le blocus, s'ingérer dans les pays, les déstabiliser et les détruire de l'intérieur.
Merci infiniment. Monsieur Barr, une toute dernière question à Monsieur Dortiguet. Monsieur Dortiguet, donc, on assiste aujourd'hui à un changement profond des rapports de force visant à trouver, comme l'a rappelé Monsieur Barr, nouveaux équilibres, nouvelles équilibres, en effet, sur les scènes internationales. Et au sein de l'OTAN, comme l'a rappelé encore une fois Monsieur Barr, des souverainetés géopolitiques n'existent pas. Est-ce que ceci étant dit, la France, bien qu'elle soit en effet membre de l'OTAN, ce commandement américain pourrait, pour l'intérêt du peuple français, pour maintenir sa souveraineté, pourrait en effet prendre ses distances avec l'unilatéralisme agressif des États-Unis?
On va répondre directement, car merci à M. Bord, ses observations aussi. Que c'est un peu l'attitude... Je dirais que c'est un peu l'attitude, ce n'est qu'une sensation, enfin, de M. Le Drian. J'ai cru remarquer dans des interviews, des interventions qu'il a faites en France, à la télévision, enfin, sur des questions politiques, qu'il y avait, disons, une volonté, non pas de se dégager de l'OTAN entièrement, ça c'est pas possible, mais disons de composer avec, disons, d'avoir une sorte de vision réaliste, disons, et cette vision réaliste me semble être aussi, non pas ouvertement exprimée, mais présente chez notre allié allemand, qui lui-même, disons, a des difficultés économiques et soutient à bout de bras, bien sûr, la crise économique en Europe, et nous soutient aussi considérablement, et s'aperçoit que, quelles que soient les exigences américaines, il y a une faiblesse à l'intérieur des États-Unis, qui est une faiblesse interne, une faiblesse financière et autres. Et donc, on ne peut pas, disons, sous prétexte d'appartenir à la même alliance, obéir aveuglément, comme nous l'ont demandé les Américains depuis, disons, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que, de ce point de vue, la crise économique, la crise financière présente, et surtout à venir, joue un certain rôle, disons, dans ce degré de réalisme. Et c'est pour ça que, bien sûr, on ne peut pas du tout se faire des illusions sur la prison, cette prison militaire qui est l'OTAN, naturellement. Mais disons que ce ne sont pas simplement des armées. Vous savez, on peut tout faire, à M. Borne, dire par le contraire. On peut tout faire avec des baïonnettes, ça s'assort dessus. C'est-à-dire qu'il faut quand même tenir compte aussi de la réalité économique, tenir compte des échanges. Et ceci, par exemple, peut tempérer, pour reprendre une observation de M. Borne, tempérer le pantouranisme, par exemple, dont il parlait, que j'ai étudié longtemps, d'ailleurs, j'ai un camarade qui était spécialiste de cette question en France, M. Georgeon. Et je dois dire que ce n'est pas une utopie de la part du gouvernement français. Ce n'est pas un faux semblant. Il y a vraiment des forces en Europe qui veulent se montrer, disons, réalistes.
Merci. Merci infiniment. Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français depuis Toulouse. Je remercie également Fabrice Poir, expert pour l'ONG ODE, d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Ici, le Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. La revue US des National Interest a mis l'accent sur le développement de l'Iran dans le secteur avionique. L'Iran a commencé à construire des avions de combat, de reconnaissance et même mettre en avant un avion militaire du nom de Sa'ere, qui est une étape majeure et un pas géant vers la production d'avions modernes dans un pays visé depuis longtemps par les sanctions occidentales. L'avion Sa'ere ou de tonnerre construit par l'Iran est une nouvelle version modifiée d'un avion F-5, mais les Iraniens adeptes de la rétro-ingénierie l'ont changé et rechangé de façon à ce qu'il soit meilleur que le F-18 à certains égards selon les médias iraniens. Et de poursuivre, l'Iran ne dévoile pas les spécifications de performance et les détails techniques de ses avions du fait et du principe de dissimulation des informations sensibles, d'autant plus que l'aéronef de Sa'ere est le résultat de l'ingénierie inverse du F-5 avec des changements dans la queue et la mise à niveau de l'avionique de l'ancien modèle. L'Ozarach, du moins dans sa forme originale, est de toute évidence un F-5E grâce à l'ingénierie inverse, avec des propulseurs améliorés, des ailes renforcées, un radar modifié et des capacités d'armes améliorées. D'autres avions ont été montrés plus tard, mais maintenant l'aéronef Sa'ere a fait un impressionnant bond en avant par rapport au modèle précédent, d'autant plus qu'il a une nouvelle capacité à transporter des armes avancées et malgré le manque d'informations détaillées, le radar a changé. L'avion Sa'ere est désormais activé dans l'escadron des chasseurs Tabriz et effectue des missions de reconnaissance. Téhéran a publié des images de la chaîne de production de l'avion Sa'ere, bien qu'il semble être un exemple d'un ancien F-5 sans pilote, transformé en morceau de métal incapable de voler dans le ciel
en un avion de chasse. C'est une action extraordinaire et ce n'est pas ailleurs exactement la même chose que le prototype américain. L'avion Sahiri est un chasseur supersonique maniable qui fonctionne de la même manière que le coréen FA-50, indique des National Interest. Dans une déclaration officielle, le ministère iranien des Affaires étrangères a désigné le régime sioniste comme responsable de l'enlèvement de ses diplomates en 1982 au Liban. Le ministère iranien des Affaires étrangères a souligné dans une déclaration à l'occasion du 39e anniversaire de l'enlèvement de 4 diplomates iraniens compte tenu de l'occupation du Liban par le régime sioniste en 1982, la responsabilité politique et juridique de l'enlèvement des diplomates iraniens incombe au régime sioniste et à ses partisans terroristes. Le 4 juillet 1982, les 4 diplomates iraniens Mohsen Mousavi, Ahmad Motavassilian, Tahrir Assegar Moradam et Kazem Akhavan, qui étaient soutenus par la police diplomatique, ont été kidnappés, a précisé ce communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères. Le ministère iranien des Affaires étrangères a poursuivi aujourd'hui à l'occasion du 39e anniversaire de ce crime perpétré par les éléments terroristes affiliés au régime sioniste. Les familles de ses proches espèrent toujours la liberté et le retour de leurs proches. La République islamique d'Iran a déclaré à plusieurs reprises qu'il existe des preuves que les diplomates iraniens ont été remis aux forces d'occupation sionistes après avoir été illégalement détenus puis transférés dans des prisons israéliennes, a ajouté dans son communiqué la diplomatie iranienne. Depuis la survenance de cet acte terroriste, la République islamique d'Iran, compte tenu des dimensions humaines, juridiques et politiques de cette affaire, a pris des mesures importantes et la question a été suivie par les institutions internationales et régionales, toujours selon le communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères. Compte tenu de l'occupation du Liban par le régime sioniste en 1982, la responsabilité politique et juridique de l'enlèvement de diplomates et de cet acte terroriste incombe au régime sioniste et à ses partisans, a conclu dans son communiqué le ministère iranien des Affaires étrangères. Selon des sources de la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadin, l'aile militaire américaine de la base à Ain al-Assad a été visée par des missiles Katyusha et la coalition internationale a confirmé l'opération et ouvert une enquête à ce sujet. Les sources ont indiqué que 4 explosions ont été entendues, ajoutant que les missiles ont été lancés depuis la ville de Hit. Un porte-parole de la soi-disant coalition internationale dirigée par les États-Unis, le colonel américain Wayne Marotto, a déclaré qu'au moins 3 missiles sont tombés sur la base américaine Ain al-Assad. Le colonel Marotto a déclaré que les premiers rapports indiquent que l'attaque a eu lieu à 14h45. Il est à noter qu'un missile Katyusha est tombé du côté ouest de la base Ain al-Assad le 20 juin, causant des dégâts matériels à la clôture extérieure de la base, selon une source de sécuritaire. Le plus gros fonds de pension de Norvège s'est désengagé des Français Altis d'Europe et Alstom, ainsi que de 14 autres groupes, dont le géant Motorola, pour leur implication dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, a-t-il annoncé lundi. Motorola et d'autres entreprises risquent d'être complices de violations du droit international en Palestine occupée, a souligné dans un communiqué KLB. développer un fonds qui gère quelque 95 milliards de dollars d'actifs, environ 80 milliards d'euros. Ce désengagement fait suite à la publication par l'ONU en février 2020 d'une liste de 112 entreprises ayant des activités dans les colonies israéliennes considérées comme illégales par le droit international. Se désengager de Motorola de solutions a été une décision très simple vu son rôle dans l'aide de surveillance des territoires occupés, a fait valoir Rebecca Elpé, reprochant au groupe américain d'avoir fourni un logiciel de vidéo de surveillance et de commandement permettant de contrôler les frontières avec les territoires palestiniens. KLP est aussi sorti des groupes de télécom qui offrent leurs services en Cisjordanie occupée, faisant ainsi des colonies, des zones résidentielles attractives. Sont également mises au ban 5 banques ayant facilité ou financé la construction de logements et d'infrastructures dans les territoires occupés, ainsi que des groupes d'ingénierie et de construction, parmi lesquels la multinationale française Alstom. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.